campagne, bonjour. Les carnets sont encore cette semaine en région Centre-Val de Loire, mais cette fois dans le département du Loir-et-Cher, qui tient toujours debout. C'était pour répondre à la chanson de Michel Delpech. Plus sérieusement, la Chambre régionale des comptes citait en exemple Loir-et-Cher comme un modèle de gestion saine et efficace des actions de mutualisation avec d'autres départements à partir d'une centrale d'achat, par exemple, ont permis de limiter la fameuse casse provoquée par la baisse des dotations générales de fonctionnement, comme on les appelle aujourd'hui. Des départements même s'interrogent sur leur capacité à continuer à assumer la hausse du nombre de bénéficiaires du RSA dans ce contexte. Des réponses sont diffusées dans nos carnets, comme par exemple aujourd'hui les jardins de cocaïne de Blois. Ce jardin est un des premiers en France qui a ouvert depuis plus de 10 ans l'entreprise d'insertion Biosolidaire. Présentation dans un court instant avec Thierry Hanon qui dirige l'ensemble. Un défi ensuite, inventer le premier instrument polyphonique adapté aux personnes handicapées. En pleine campagne, à Mont-Doubleau, l'association Résonance Nomade construit le prototype de cet instrument. Sa présidente, Monique Caïs-Ménassieux, sera notre seconde invitée.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Thierry Hanon, bonjour.
Bonjour.
Thierry, on vous rejoint à Blois où vous dirigez un chantier d'insertion des jardins de cocagne, d'ailleurs créé en 93, donc c'est un des tout premiers en France.
Oui, tout à fait. On est le deuxième jardin à avoir été créé en France. En 23 ans d'activité maintenant, donc on est assez fiers de ce qui a été développé sur le territoire.
Ouais. Alors vous maintenez l'activité, vous le développez, on va le dire dans un instant. Déjà, le maintien se fait grâce à quoi? C'est d'abord au nombre d'adhérents fidèles au jardin de cocagne?
Alors, évidemment, au niveau du jardin de cocagne, on a encore aujourd'hui des adhérents qui reçoivent nos paniers toutes les semaines, qui sont des fondateurs de la structure et qui les reçoivent depuis 1994. Mmh. Et puis, effectivement, avec ce système de panier où le produit de l'exploitation est distribué localement, ça nous a donné une lisibilité sur le territoire qui fait qu'aujourd'hui, on est bien reconnu et bien implanté.
Ouais. C'est une grande structure, hein. Il y a 7 hectares de terre, il y a 9000 mètres carrés de serre et de tunnels de culture. Vous produisez toute l'année avec 35 personnes encadrées sur le terrain.
Oui, tout à fait. Quand l'association a été créée en 93, c'est la ville de Blois qui a mis à disposition des terrains. La culture a commencé sur 1,5 hectare, 2 hectares. Et puis, il se trouve que les terrains qu'on avait mis à notre disposition étaient plutôt grands. Il y avait 7 hectares. Il y avait aussi la réalité qui est qu'il y a beaucoup de gens en difficulté socio-professionnelle et que les besoins d'insertion étaient importants. Donc, il y avait évidemment une corrélation entre les deux. Donc, du coup, on a grossi. Et fait, même l'année dernière, là, on a encore pris 1 hectare supplémentaire parce qu'on a une vraie demande en tant que au niveau des consommateurs. Et puis, ça nous a permis de créer 2 postes d'insertion supplémentaires sur l'activité de maraîchage.
Ouais. C'est tentant, Thierry, quand on est comme vous, finalement, pas très très loin de l'Île-de-France, de dire peut-être que je pourrais toucher aussi les Franciliens.
Alors, oui, c'est tentant. Mais la particularité du Jardin de Blois, c'est que nos abonnés sont blésois ou du Loir-et-Cher. On fait de la vente directe d'ailleurs aussi sur notre site. Mmh. Mais cette dimension de la proximité de la région parisienne et de sa proximité, ça s'est traduit par le fait que, en fait, voilà une douzaine d'années, on avait été sollicité par des consommateurs parisiens. Nous, tout seuls, on pouvait pas vraiment le mettre en place parce que c'était pas très cohérent de monter quelques paniers en Île-de-France. Mais il se trouve qu'il y a une association de producteurs qui était en train de se créer en région centre, une association de producteurs bio. Et on s'est réunis avec ces producteurs. Nous, on avait notre savoir-faire de panier. Et on leur a proposé de développer un système de panier collectif et qui existe maintenant depuis 2004 et qui permet de livrer 4000 familles sur l'Île-de-France. Et nous, en complément de l'activité Jardin de Cocagne à Blois, on a donc créé une entreprise d'insertion sur le même site qui se charge de recevoir la marchandise de ses producteurs, de la conditionner sous forme de panier pour pouvoir là, ensuite l'expédier sur l'Île-de-France. Et ça a permis de créer aujourd'hui 11 ETP en insertion à Blois, mais aussi une structure d'insertion en logistique en Île-de-France.
Mmh. Le total, alors je regarde parce que ça me paraît gigantesque, 130 000 paniers conditionnés chaque année.
Voilà, et avec des légumes qui proviennent de 35 producteurs bio de la région centre.
Il y a une chose aujourd'hui, on la voit de plus en plus, il y a des collectivités qui sont très soucieuses de cela, c'est de proposer, comme vous le faites vous-même avec vos produits bio, d'amener de plus en plus de produits bio sur la table de la restauration collective. Est-ce que c'est en gestation chez vous? Est-ce que vous pourriez avoir une sorte de priorité pour fournir en produits bio cette restauration?
Alors, effectivement, si je me souviens bien, c'est Michel Barnier en 2008 qui avait fixé un objectif de 20% de bio en 2012 dans toutes les cantines de France. On en est encore très très loin. Donc il y a eu des amorces, il y a eu des projets, il y a de plus en plus de collectivités qui sont en train d'y passer sérieusement. Et nous, localement, on est en train de réfléchir, effectivement. On a déjà notre réseau de distribution avec nos paniers sur le département. Et je dois rencontrer prochainement là des partenaires pour voir comment on pourrait, à partir de notre structure d'insertion, proposer une logistique. Parce qu'il y a la production, évidemment, mais il y a aussi la problématique de comment livrer des cantines, entre autres dans des zones rurales. Donc ça, c'est vraiment un projet 2016-2017 qui nous tient à cœur, parce que ça permettra aussi de recréer quelques emplois d'insertion qui sont professionnalisants et d'apporter des produits bio dans les assiettes des enfants, et on y est vraiment attentif.
Absolument. L'association, le chantier, l'entreprise insertion, il y a un site, hein, évidemment, c'est association-biosolidaire.fr. Vous aurez le lien en même temps avec le jardin de Cocagne, donc dirigé également par Thierry Hanon. À Blois, avec cette performance depuis sa création en 93, ça continue. Et même, vous voyez que on augmente la superficie et la production et le nombre de paniers distribués. Chapeau. Et continuez vraiment. Merci Thierry.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Je conservais depuis le mois de septembre dernier le courrier d'Arthur en attendant de passer dans le Loir-et-Cher. Notre correspondant a créé avec deux amis, Édouard et Clément, une entreprise innovante et surtout inattendue de la part de trois garçons. Ils sont tout jeunes, hein. S'appelle Comme des papas, un beau clin d'œil à un secteur, celui de l'alimentation pour bébés, qui continue à véhiculer des préjugés sexistes. Après une formation métier de l'hôtellerie de la restauration qui les prédestine à construire une carrière dans l'hôtellerie de luxe, tous les trois ont pris une toute autre option en concevant des pots pour bébés en parfait accord avec l'agriculture biologique. Tous les ingrédients de saison sont en effet issus de fermes dont la distance n'excède pas de 40 km de leur laboratoire de transformation, soutenu par leurs proches après avoir lancé aussi une campagne de crowdfunding qui leur a permis de récolter 8000 euros. Les trois amis ont intégré un incubateur du Val-de-Loire et 6 mois plus tard, en février 2015, Comme des papas produisaient ses premiers pots. 50 000 pots dans l'année ont été commercialisés soit par la toile sur le net, soit par des magasins, épiceries, dont certains sont à Paris ou en région parisienne. Le packaging, comme on dit, est aussi réussi que les contenus, dont la gamme de produits est vraiment variée. Une petite précision, les trois garçons ne sont pas encore pères. En attendant, ils prouvent qu'une telle création est tout à fait possible en territoire rural, et on aime beaucoup aussi leur slogan, les petits plats home-made. Alors ça, j'aime bien. Homme comme homme, évidemment. Et le site, c'est commedespapas.fr. Et puis, comme j'ai encore un tout petit peu de temps avant d'appeler Monique Caïs-Ménassieux, Stéphane nous a envoyé un mot il y a quelques mois aussi, mais je l'avais gardé en attendant que son site se développe. C'est le Ruraliscope. Le Ruraliscope, c'est le média national des solutions locales du monde rural. C'est il y a un fil d'infos qui est mis à jour régulièrement avec des citoyens, des élus, des entreprises, des associations, et c'est toutes les initiatives qui peuvent relever de la ruralité. Le Ruraliscope.fr, on en parlera plus longuement une prochaine fois. Monique Caïs-Ménassieux, bonjour.
Oui, bonjour.
Monique, vous nous avez envoyé une plaquette d'un beau projet. C'est l'association Résonance Nomade, avec en titre de la plaquette « Au carrefour du handicap, de la nouvelle lutherie et des musiques du monde ». Alors, vous êtes installé à Mondoubleau. Et si voilà. J'ai bien compris, dans ce village de Mondoubleau, il y a un établissement de personnes en situation de handicap.
Il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle un ESAT, c'est-à-dire un établissement d'aide au travail. Et il y a deux foyers d'hébergement.
Oui. Et c'est à partir de la situation de handicap de ces personnes que vous avez imaginé ce projet ?
Non, pas vraiment de celle-là. Pas vraiment de celle-là, parce qu'on est 3 personnes à l'origine du projet. Et l'un d'entre nous qui travaille depuis un peu plus de 20 ans maintenant avec des personnes en situation de handicap est dans la région de Nice. C'est plus large.
Alors, les 3 personnes, il y a vous, il y a Dominique Forny, donc le luthier.
Voilà, Dominique Forny qui travaille depuis un peu plus de 20 ans maintenant, qui anime des ateliers de musique dans des centres de handicapés. Et Georges Alloro qui est donc maître d'art. Je ne sais pas si vous connaissez les maîtres d'art.
Oui.
Ce titre est donné à des professionnels d'excellence.
Oui, oui, oui. Et lui, dans la facture instrumentale, évidemment.
Facture instrumentale contemporaine, c'est-à-dire qu'il crée des instruments nouveaux, inspirés des cultures du monde.
Et en particulier, l'instrument que vous concevez pour des personnes handicapées s'inspire du gamelan indonésien.
Voilà, exactement. Le gamelan est apparu comme un instrument extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un rare cas d'instrument collectif qui est joué par des personnes non professionnelles, par des musiciens non professionnels. Il est joué dans les villages. Et en plus, le geste pour en jouer est extrêmement simple. On percute tout simplement une lame en bronze. Donc, ça nous a semblé extrêmement intéressant pour des gens qui ont des difficultés ou motrices ou mentales. C'est un instrument qui apparaît comme très simple d'accès.
Oui.
Dans les centres de personnes handicapées, il n'y a pas d'accès à la musique. Parce que d'abord, ils sont loin des conservatoires, loin des écoles de musique. Et ensuite, il n'y a pas d'instrument adapté. Les instruments sont faits pour des personnes valides. Donc, il n'y a pas d'instrument adapté à eux. Et la plupart du temps, ils en restent à ce qu'on peut appeler de l'éveil musical.
Mmh.
Alors, pour vous expliquer d'abord, ce que je n'ai pas dit, c'est que le gamelan, c'est un ensemble, on l'appelle un instrument au niveau de la musicologie, mais c'est un ensemble de petits instruments. C'est comme un peu si vous découpiez un piano par octave et que chaque personne joue une partie du piano.
En fait, c'est un orchestre à lui seul.
C'est un orchestre, mais la différence avec un orchestre, c'est que les instruments ne sont pas séparables du tout.
Oui.
Et il sera adapté de plusieurs façons. D'une part, il y aura des pieds qui vont permettre de le positionner de façon à l'adapter à des gens en fauteuil, par exemple. Des pieds qui le feront monter, descendre ou basculer un peu pour s'adapter aux différentes situations. Et puis, très important aussi, c'est l'enseignement. Quand on est en Indonésie, l'enseignement, donc ce sont des musiciens non professionnels qui jouent, l'enseignant se met en face de celui qui apprend et joue en miroir. Donc la personne qui apprend n'a plus qu'à répéter le geste sans avoir à passer par un système de solfège ou n'importe quelle connaissance autre, c'est simplement la répétition du geste.
Quel est le coût de ce type d'instrument, Monique ?
Ah ben ça, on le verra quand on aura fait le prototype. Pour l'instant, on est vraiment à avoir conçu l'instrument, constituer une équipe. On est soutenu depuis 3 ans maintenant par une fondation de mécénat de compétences qui s'appelle Ernst & Young, avec qui on a établi le budget, avec qui on a établi la différente séquence des étapes à réaliser. Et maintenant, donc, on passe à l'étape suivante, la recherche de partenaires financiers.
D'accord. Et vous pouvez les trouver dans votre région ?
Pas du tout, non, c'est national et même c'est européen.
Quel nom va-t-il porter ?
On le cherche. On le cherche et on fera sûrement une sorte de concours pour arriver à... On a eu plein de noms et aucun ne nous satisfait.
Alors, si on veut des renseignements, il y a une page Résonance Nomade sur Facebook qui est fonctionnelle, un site qui est en travaux, qui va ouvrir prochainement Résonance au pluriel,
oui,
Nomade au pluriel.
Voilà. On n'a pas encore vraiment attaqué la partie communication parce que ça demandait beaucoup de travail, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et là, maintenant, on va s'occuper vraiment de ça. Donc, où on peut passer par la page qu'on a aussi sur le réseau Musique et Handicap, qui est un réseau national et qui met donc en correspondance des gens qui travaillent pour l'accès à la musique pour des personnes handicapées. Et donc, on va attaquer la partie communication prochainement.
Alors, tous les liens avec ces sites, la page de Résonance Nomade, le prochain site de Résonance Nomade et celui de Musique Handicap, sur nos pages d'émission, évidemment, pour suivre la suite de cette aventure, de la création de ce premier instrument au carrefour du handicap et la nouvelle lutherie des musiques du monde. Merci, Monique.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.
Demain, nous allons changer un tout petit peu de destination pour vous parler d'un film exceptionnel qui sort mercredi, qui s'appelle Le potager non grand-père, c'est de Martin Esposito et on vous le conseille, c'est bucolique, poétique et humain. La semaine prochaine, nous serons dans l'Indre-et-Loire, ensuite dans le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, la Loire-Atlantique. N'oubliez pas de noter ces destinations, vous pouvez nous écrire depuis ces territoires. On reste dans le Loir-et-Cher avec Nicolas Stoufflet, le jeu des 1000 euros à Saint-Gervais-la-Forêt.